Bonsoir et bienvenue dans cette édition des Tribunes de la Presse. Publication hier mercredi des listes définitives des candidats à la présidentielle, à la députation nationale et à la députation provinciale. 9 soldats et 6 civils, dont 2 femmes tuées, c'est le bilan de l'attaque des hommes armés samedi et dimanche contre les FRDC dans les territoires de Djougou en Ituri. À Kilembwe, dans les territoires de Fizi au sud Kivu, les combats ont repris lundi dernier entre les FRDC et le groupe coalisé Mai Mai, dirigé par le général autoproclamé Yakutumba William. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table John Ngombwa, il est directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. Bonsoir John Ngombwa.
Bonsoir Guy Mathieu, bonsoir au public des radios capées à travers le pays.
Innocent Kabukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guy Mathieu.
Et Rombo Otaba, il est journaliste au journal L'Observateur qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Rombo Otaba.
Bonsoir mon père.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder le débat de ce soir, on voit comment les journaux quinois ont traité l'actualité de la semaine. On écoute donc Alain Irung dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. La Commission électorale nationale indépendante a publié mercredi 19 septembre la liste des 21 candidats à la présidentielle et aux législatives nationales et provinciales. De 26, la liste définitive est revue à 21. En principe, fait remarquer le phare, le cap peut être mis sur la date du 23 décembre 2018 pour le choix dans les urnes du successeur de l'actuel chef de l'État. Concernant les élections législatives nationales, 15 355 candidatures ont été réceptionnées après contentieux, ajoute l'agence congolaise de presse ACP. Les élections étant prévues le 23 décembre prochain, Dépêche.cd conseille à tous les candidats de se préparer. Avec la publication des listes définitives, le chemin est définitivement balisé pour les élections. Le 23 décembre, assure le président de la CENI, Corneille Nanga, cité par Forum des As. Ces élections sont d'autant plus importantes pour la République démocratique du Congo qu'elles permettront pour la première fois de son histoire l'alternance démocratique. En effet, à la faveur de ces élections, le pays vivra sa première expérience de remise et reprise civilisée entre le président de la République sortant qu'on connaît et le président de la République entrant que nous allons investir par l'acte de vote complète pour sa part, actualité.cd qui cite aussi Corneille Nanga. Casinfo.ca rappelle qu'après délibération, 6 candidats ont été exclus par la CENI et la Cour constitutionnelle a réintégré Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoku. Dans un autre registre, la CPI a fixé la peine maximale de Jean-Pierre Bemba à 12 mois de prison ferme et à 300 000 euros d'amende dans l'affaire de subornation de témoins, informe Le Phare, tout en signalant que cette décision consacre son élimination définitive de la course à la magistrature suprême en RDC. Pour ce quotidien, Jean-Pierre Bemba est politiquement mort pour 5 ans. D'où ses titres du potentiel, Kamere ou Tshisekedi, le choix cornélien de Katumbi à la présidentielle le 23 décembre 2018, l'opposition, qui nourrit toujours l'espoir d'une candidature unique, devra plutôt faire le choix entre Félix Tshisekedi de l'UDPS et Vital Kamerhe de l'UNC, analyse le tabloïd. En outre, M. Bemba a la possibilité de faire appel pour laver son casier judiciaire, affirme Maître Georges Kapiamba, cité par actualité.cd. De son côté, l'avenir titre, affaire Bemba, la CPI donne raison à la Cour constitutionnelle et à la CENI. Actualité.cd annonce que la République démocratique du Congo a menacé samedi 15 septembre de quitter la Cour pénale internationale, estimant que certains juges sont sous pression des gouvernements occidentaux. Dans son communiqué, le gouvernement indique que certains gouvernements exerceraient des pressions sur les juges de la CPI en rapport aux questions sous examen en relation avec la situation en RDC, précise le média en ligne.
Merci à vous Alain Irung, John Ngombwa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services. Quelle est l'actualité de la semaine que vous souhaiteriez commenter?
Oui, c'est une actualité en rapport avec une visite, une mission effectuée par un groupe de l'opposition qui est allé en Afrique du Sud, a été reçu par l'ANC. visite au terme de laquelle l'ANC a fait un communiqué où ceux qui ont été reçus ont fait un communiqué disant grosso modo que l'ANC va influencer la SADC, que la SADC puisse aussi faire une pression sur le gouvernement ou l'organisation du processus électoral. Moi, je trouve ça quand même limite pour des acteurs politiques, parce que toutes proportions bien gardées. Je voudrais refaire le même chemin. Imaginons qu'en Afrique du Sud, il y ait un problème entre acteurs et que acteurs politiques et que l'un des acteurs quitte et vienne ici parler au PPRD. Vous voyez un peu ce que ça donne comme intention. Donc, on ne peut pas penser que ça puisse se faire. Mais alors, si on a un minimum de dignité, il faut aussi une limite à certaines choses.
Oui, mais parce qu'on estime que l'ANC a une certaine influence au sein de la SADC.
Je comprendrais qu'il soit reçu par Zuma, mais l'ANC, ce n'est qu'un parti politique. Ce n'est qu'un parti politique.
Par Ramaphosa.
Ramaphosa, parce voilà, que Zuma est déjà parti. Voilà, désolé. Mm. Par Ramaphosa, oui, oui, qui est aussi en même temps président de l'ANC. Mais l'ANC, ce n'est qu'un parti politique. C'est comme l'UDPS, c'est comme les Palou, que sais-je. Alors, ça ne lui donne pas nécessairement une autorité sur la question.
Donc les opposants devaient aller vers des officiels.
Mais je pense que c'est comme cela.
Merci Innocent Kaboukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa. C'est quoi l'information qui vous a marqué cette semaine?
Oui, avant peut-être d'arriver à l'information qui m'a marqué pour cette semaine, mais je voulais quand même dire un petit mot par rapport à la visite de nos opposants en Afrique du Sud, comme disait tout à l'heure mon confrère John Gomboa. Mais oui, moi je crois qu'il n'y a pas, dans la comparaison qu'il a essayé d'établir, il n'y a pas, c'est un non-lieu, parce que simplement, le PPRD n'est pas égal à l'ANC. L'ANC, c'est un
parti politique. Mais c'est des partis politiques.
C'est des partis politiques, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un parti politique qui a quand même une grande envergure au niveau de l'Afrique. On sait que ce parti-là a travaillé durement en Afrique du Sud pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui en Afrique du Sud, parce qu'on se souvient que l'Afrique du Sud vient quand même d'un système de l'apartheid. Pour qu'on en arrive aujourd'hui à cette démocratie-là, l'ANC a joué un grand rôle, donc ça peut avoir un impact réel sur la vie politique du continent. Et n'oublions pas, du point de vue de la géopolitique, on sait le rôle que joue l'Afrique du Sud. Et donc, le parti au pouvoir est en quelque sorte le pouvoir même, même si, évidemment, il y a quand même des petites barrières. Donc, je crois que cette démarche est tout à fait normale et bien indiquée. Et je crois que ça a un impact réel sur la marche de la politique au niveau de l'Afrique, notamment ici chez nous. Alors, en ce qui concerne l'actualité qui marque personnellement la semaine que l'on aurait dû aussi prendre, c'est notamment la commémoration des victimes. Vous vous souvenez, il y a une année, il y a aussi deux ans, qu'il y a eu des gens qui sont tombés en certains 19 à la suite de réclamations pour simplement que le jeu démocratique soit réel en République démocratique du Congo. Donc le processus électoral à l'époque, on réclamait des élections
19 septembre de 2016.
De 2016 notamment. Et donc ces morts-là méritaient quand même qu'il y ait une pensée, et ça j'ai salué. Donc les partis politiques, notamment l'UDPS qui en a fait sienne, et même des organisations de la société civile qui ont été à l'église, et dans la même foulée les actions ou disons l'action de la Lucha qui réclamait notamment le retrait de la machine à voter, qui pose problème, et qui justement cette manifestation s'est soldée par des blessures, et alors qu'on aurait pu éviter tout cela, parce que c'est en fait nous tendons vers la démocratie, vers les élections, et il a été demandé, exigé que pour parvenir aux bonnes élections on a besoin d'ouvrir le jeu, et donc on devait davantage se supporter mutuellement.
Merci.
Pour une réclamation aussi citoyenne.
Rombo Otaba, journaliste au journal L'Observateur qui paraît ici à Kinshasa, vous commentez quelle actualité de la semaine?
Bon, moi aussi, effectivement, c'est le processus électoral en cours, surtout les recommandations faites par les experts britanniques qui ont visité, permettez-moi le terme, la machine, la fameuse machine qui fait polémique. Il y a d'abord eu les experts de l'OIF qui avaient fait des premières recommandations. On ne sait pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que la CENI a pris en considération ces recommandations? Aujourd'hui, là, ce sont les experts britanniques. On connaît la rivière des anglophones. Bon, lorsque ils viennent comme ça à la CENI, je crois que les recommandations, si elles sont mises en pratique peuvent redonner confiance même à ceux qui doutent encore aujourd'hui du recours à cette fameuse machine. Donc moi je trouve que c'était quand même une bonne approche qu'on fasse appel aux Britanniques pour visiter cette machine. Et maintenant que je suppose qu'ils ont travaillé en toute indépendance, ils ont fait des recommandations. Et maintenant, je pense que l'opposition qui tient à ce que le processus soit crédible, et tout semble aujourd'hui confirmer, a établi que la CENI ne va pas faire marche arrière. Je crois qu'il y a des enjeux même d'ordre financier dans cette opération-là.
Merci.
Alors je crois qu'ils ne vont pas faire marche arrière. Alors maintenant, c'est à l'opposition de capitaliser ces recommandations, les recommandations faites par les experts.
Merci, Rombo.
Dans quelle mesure on peut vraiment de plus en plus privilégier le processus en cours.
Merci. Notre premier thème de ce soir, publication hier mercredi des listes définitives des candidats à la présidentielle, à la députation nationale et à la députation provinciale. Ils sont 21 candidats à président de la République, 15 355 candidats à la députation nationale et 19 640 candidats députés provinciaux. Prenant la parole à cette occasion, le président de la CENI a confirmé la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales pour le 23 décembre 2018. Selon lui, ces élections seront suivies des scrutins indirects des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui auront lieu au mois de mars 2019. Pour Corneille Nanga, la publication des listes définitives des candidats aux différents scrutins est un nouveau pas des géants qui vient d'être franchi. Il en appelle à l'adhésion de tous pour permettre au pays de connaître son tout premier passage de pouvoir de manière pacifique à la tête de l'État. Corneille Nanga, dans ses propos recueillis par Mimi Ngumba Mulongo.
Ces élections sont d'autant plus importantes pour la République démocratique du Congo qu'elles permettront, pour la première fois de son histoire, l'alternance démocratique. En effet, à la faveur de ces élections, le pays vivra sa première expérience de remise et reprise civilisée entre un président de la République sortant qu'on connaît et un président de la République entrant que nous, peuple congolais, allons investir par l'acte de vote. Tout en reconnaissant aux uns et aux autres la légitimité des divergences d'opinion et idéologie, la Commission électorale nationale indépendante en appelle à l'adhésion de tous au processus et à la mobilisation générale le 23 décembre, pas pour détruire, mais pour construire. Je voudrais finir mon propos par cette exhortation que nous fit autrefois l'abbé Apollinaire Malou, d'heureuse mémoire. Les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Le 23 décembre 2018 est pour la République démocratique du Congo un point de départ. Il nous faut donc y arriver pour espérer avancer vers le développement tant souhaité.
Djoud Mboumba, directeur général des Congo Facilité, une agence de production audiovisuelle et de services, avec la publication de ces différentes listes, un nouveau pas des géants vient d'être franchi, comme le dit Corneille Nanga.
Oui, je crois que les choses sont plus claires maintenant. Et le candidat qui était des candidats potentiels, aujourd'hui ils sont effectivement commencés. Et la machine est lancée. Donc voilà, je crois que c'était important que ça se fasse et qu'on puisse évoluer.
Et peut-on dire qu'avec cette publication, plus rien n'empêche à la CENI d'aller jusqu'aux élections du 23 décembre?
Non, plus rien. Non, ce serait trop dire ça. Ce serait trop s'avancer. Non, je crois que, bon, la CENI, elle, c'est juste un organe technique. Mais elle est dépendante de beaucoup d'injonctions, y compris au niveau des politiques. Alors après, ça va dépendre aussi de la manière dont les politiques vont aborder cette dernière ligne droite. On sait, on sent que tout ne va pas être comme dans les meilleurs du monde. Donc, ne soyons pas surpris que les politiques décident de revoir les choses autrement à partir de ce moment-là. La CENI ne pourra que s'exécuter. Bon, mais pour l'instant, elle a déjà tracé sa ligne, son chemin. Bon, a priori, elle fait ce qui avait été prévu de faire, quitte à ce qu'on lui dise le contraire.
Innocent Kabukala, journaliste indépendant évoluant à Kinshasa, les lignes n'ont pas bougé en ce qui concerne les candidats, n'est-ce pas, à la présidentielle. La CENI publie une liste des 21 candidats. Et peut-on dire que la condamnation de Jean-Pierre Bemba par la CPI lundi dernier a davantage contribué à écarter la candidature du président du MLC?
Bon, en tout cas, si il a regardé de près, on peut le dire, parce que en fait, de façon générale, lorsque quelqu'un est condamné, de façon générale, en tout cas, lorsque quelqu'un est condamné, il y a sa condamnation fait tache d'huile sur son casier judiciaire, et ce qui fait que, évidemment, pour des élections, parce que justement, quand on parle des élections, on est dans un cadre beaucoup plus légal, et la loi a horreur de taches d'huile, et donc, de façon générale. J'insiste vraiment sur le caractère général. Donc on peut penser que c'est cet aspect des choses qui est la plus préjudicié, mais au-delà des considérations politiques. Mais en même temps, il faut aussi placer un mot sur le débat autour de cette question de Jean-Pierre Bemba, parce que là, les politiques au niveau national me déçoivent un peu. L'affaire Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas une affaire d'État au Congo. C'est une question que M. Jean-Pierre Bemba qui oppose Jean-Pierre Bemba à la République centrafricaine. Et donc, dans ce contexte-là, je ne peux pas comprendre comment on peut se servir de cette question pour martyriser un fils du pays et au point de le malmener jusque à être écarté. C'est quand même assez triste. Et que, en même temps, en revanche, la même chose, il ne faut pas que. J'ai vu la plupart des cas, les cadres du MLC, vouloir faire une liaison entre cette question et les instruments juridiques à la matière, jusqu'à vouloir faire croire que c'est plus une question politique en interne ici qui fait que, évidemment, que Jean-Pierre Bemba soit écarté.
Donc, à votre avis, c'est une question judiciaire ou une question politique?
Bon, la question est judiciaire. Mais on veut en faire une question politique. Et c'est comme ça que dans les deux camps, on ne cesse de se lancer, je dirais, de pierres, parce qu'on estime que dans un camp de Jean-Pierre Bemba, on estime que c'est la majorité au pouvoir qui est à la base de cette situation-là, et la majorité estime que c'est une question qui n'a rien à voir avec eux, c'est une question plutôt purement juridique, donc c'est la CPI, tout ça. Mais alors qu'en réalité, si on fait une analyse froide de cette question-là, M. Jean-Pierre Bemba ne devait pas être aussi martyrisé au niveau national, comme on l'a fait. Il est fils de ce pays, il a les mérites d'avoir les mêmes droits que tout le monde, que toutes les candidatures qui ont été faites au Congo, et donc on ne devait pas le martyriser de cette manière-là. Mais bon, cela est arrivé, alors il faut peut-être penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? Il n'est pas tombé dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, au sujet de la candidature unique de l'opposition. On sent plus du chantage autour de cette candidature commune, du reste, que moi je ne soutiens pas de façon générale aussi. Pourquoi? Parce que simplement, dès lors qu'il y a eu ces changements de la Constitution, je me souviens en 2011, on avait biaisé le processus de démocratie. Parce que la question de la candidature commune est une question de rapport de force, simplement sur terrain. Et donc si on tient compte de cet aspect des choses, on ne devait pas avoir des bons critères aujourd'hui. Merci. Pour pouvoir se choisir un candidat commun. Merci. Parce que là, maintenant, l'opposition se trouve comme piégée par la majorité avec cette question de candidature commune. Parce que là, Jean-Pierre Bemba est invalidé. Et qu'est-ce qu'on va dire dans le camp de Jean-Pierre Bemba s'il faut se prononcer en faveur d'un autre candidat? Donc ça devient compliqué.
Mais il a dit qu'il était prêt, n'est-ce pas?
Il était prêt, il était prêt dans quel contexte? Qu'il est d'abord candidat. Le président de la République est reconnu tel quel, et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut faire maintenant le jeu du choix d'un candidat commun. Mais maintenant qu'il est écarté, il a de l'amertume du fait qu'il soit écarté. Est-ce que va-t-il jouer en toute sincérité ce rôle-là?
Merci, on a compris.
C'est un peu difficile. Donc merci. Je crois qu'on pourra en dire davantage.
Rombo Tabat, journaliste au journal L'Observateur qui paraît ici à Kinshasa. 21 candidats président de la République, 15 355 candidats à la députation nationale et 19 640 candidats députés provinciaux. Et comment vous comprenez cet engouement alors qu'une partie de la classe politique continue à exprimer certains doutes, continue à exprimer de la méfiance, notamment suite à la machine à voter, mais ils y vont quand même, ils vont à ces élections. Comment vous comprenez cette situation?
Non, non, il faut d'abord faire la part des choses. Hein. Lorsque les gens se sont exprimés, ont exprimé les ambitions, nous n'avions pas encore vraiment, véritablement, cette affaire de la machine à voter. Bon, tout le monde avait espéré que Ornei Nanga pouvait revenir à la raison. Mais on se rend aujourd'hui compte qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Bon, mais moi, ce qui me fait un peu rire en ce qui concerne surtout les candidats députés, les candidats présidents de la République, bon, il y a à rire à voir le profil de certains candidats. Mais je ne sais pas si vraiment les Congolais nous sommes sérieux. On se porte candidat pour occuper les fonctions de président de la République, dont la fonction suprême du pays. Et alors qu'au niveau de la base, vous n'avez même pas un parti politique qui est connu. Moi, par exemple, personnellement, il y a à peine que je viens de connaître les noms de certains candidats présidents de la République. On ne sait pas d'où ils viennent. Bon, alors, si on voit aussi la somme de 100 000 dollars américains, pas 100 000 francs congolais, mais 100 000 dollars américains qu'il faut payer au trésor public pour supporter candidat, bon, il y a un peu de doute là-dessus. On dirait qu'il y a de la manipulation parce que si je prends par exemple la cité de Matinanima, dans quel état elle se trouve aujourd'hui, il n'y a même pas une petite unité de production là, alors qu'avec 100 000 dollars on peut faire une petite savonnerie ou quoi là. Alors si on doit vraiment jeter une telle somme dans le fleuve Congo au motif qu'on veut à tout prix briguer les postes, bon moi ça me donne un peu de matière à réflexion. Est-ce que nous sommes nous sérieux les Congolais? Alors est-ce que l'alternance que tout le monde souhaite arriver, est-ce que ce sera une alternance qualitative, c'est-à-dire que est-ce qu'elle va apporter vraiment une amélioration des conditions de vie des Congolais? C'est ça. Bon, pour les députés provinciaux, bon, moi je ne voudrais pas être donneur de leçons. Bon, les partis politiques se sont engagés de leur manière, mais je crois qu'à la fin, à la publication des résultats, ils même apprécieront leur approche, si elle a été positive ou négative. Parce Merci. Que là, avoir certains candidats, on se demande. Guy Matessi, vous regardez un peu la législature qui va à la fin là. Vous savez qu'il y a certains députés qui n'ont pas pris la parole durant ces temps ici où ils étaient au palais du peuple. Alors moi je ne sais pas finalement si les gens veulent voir tout simplement l'aspect financier, l'aspect pécuniaire quand ils sont à l'Assemblée nationale, où c'est vraiment des gens qui viennent
Merci,
à
Rombo Taba.
Apporter quelque chose
Merci.
L'amélioration des conditions de vie des Congolais.
Merci Rombo. John Ngomboa, certains experts estiment que l'opposition fait face à des défis, notamment celui de la désignation d'un candidat commun, celui aussi de la mobilisation des témoins dans chaque bureau de vote, mais aussi celui d'obtenir, n'est-ce pas, la transparence dans les processus électoraux. Quels atouts cette opposition détient-elle aujourd'hui pour relever ces différents défis?
L'opposition détient plusieurs atouts, à mon sens. Déjà, le fait de ne pas avoir été aux affaires, donc elle peut mettre sur le compte de la majorité beaucoup de choses qui n'ont pas été correctement réalisées dans le pays. Ça, c'est déjà un. De deux, l'opposition, si elle se met un peu ensemble, elle a une base sociale très large qui peut lui permettre, si elle a une intelligence commune, de régler notamment toutes ces difficultés. Moi, j'allais même dire des prétextes, notamment en ce qui concerne la machine à voter. Il y aura 80 000 bureaux de vote. Il suffirait que l'opposition s'organise pour que, toute tendance confondue, on ait un observateur dans chaque bureau de vote, et tout de suite, la machine à voter n'a plus aucun impact parce que les observateurs vont avoir les PV. Et personne ne pourra rien y faire.
Alors comment vous expliquez ces phénomènes? Il y a des partis politiques dans ces pays qui sont connus, qui ont pignon sur rue à travers tous les pays, mais qui ont toujours eu du mal, n'est-ce pas, à avoir des témoins dans chaque bureau de vote. 2006 et 2011, comment vous expliquez cela?
Oui, il y a un sérieux problème d'éducation civique et un problème de management au niveau des partis politiques. Parce que les partis politiques ne forment pas leurs membres. C'est les partis politiques, au-delà de chercher le pouvoir et les prendre, les partis politiques ont aussi des obligations civiques à l'égard de ses membres. Ils doivent former les membres. Les partis politiques doivent aussi être gérés de manière managériale, transparente. Aujourd'hui, les partis politiques, c'est comme une entreprise. Mais les partis politiques, même quand vous allez à l'opposition, est-ce que vous savez combien d'argent entre dans un parti politique et combien d'argent en sort? Donc, il y a tout cela. Est-ce que les membres des partis politiques ont-ils réellement une voix, ont-ils droit à la parole? Parce que il y a beaucoup de partis politiques, même de l'opposition, qui ont organisé une réelle dictature dans leur fonctionnement, où c'est pas donné à n'importe qui de venir poser des questions à tel ou tel. Donc c'est tout cela. Alors moi je crois qu'il faut moderniser quand même la façon de faire la politique chez nous, parce que les partis politiques, au fait, de l'opposition, ne sont que des copiers collés dans leur fonctionnement de ce qui se fait de l'autre côté. Sauf que, bon, eux, ils sont de l'opposition.
Innocent Kamoukala, après cette étape de publication des listes définitives, la CENI devra déployer les matériels de vote à travers tous les pays. Et nous sommes pratiquement à 3 mois de ces élections. Est-ce que ce pari pourra-t-il être gagné?
Mais on l'a dit au début de cette émission, la CENI dépend essentiellement du gouvernement et des autres partenaires pour pouvoir réussir dans sa mission. Donc cela dépendra effectivement de l'apport de chacun pour que la CED arrive à réaliser cette mission-là. Mais il faut reconnaître que c'est déjà très très difficile, parce que quand le gouvernement dit que à lui tout seul, il a les moyens pour pouvoir doter la CED de tout ce dont il a besoin pour pouvoir faire ce travail, alors que sur terrain, on remarque
notamment, très bien, c'est notamment l'appui financier, l'appui logistique.
Notre pays ici est très vaste. Il est très très vaste. C'est un pays continent et je ne vois pas comment on va tout faire pour arriver à Kinshasa avec toutes les facilités et dans des coins où il n'y a pas d'électricité. Comment on va faire pour pouvoir amener tout le matériel adéquat par rapport à cette question? Je crois que la CENI a déjà beaucoup d'autres difficultés à ce niveau-là et donc il faudra attendre. Mais ça me laisse quand même perplexe quant à la tenue de ces élections. Mais je voudrais quand même revenir sur la question des atouts de l'opposition, mais surtout sur votre dernière question à mon confrère concernant, excusez-moi, le doute autour des témoins. Est-ce que l'opposition... Mais il faut qu'on se dise une vérité. L'opposition n'est pas si mal gérée, l'opposition n'est pas si désordonnée comme on peut le penser. L'opposition a les moyens de pouvoir s'adonner à l'éducation civique de manière à avoir tous ces témoins-là. Mais le problème qui se pose dans notre pays, c'est pour cela que on continue d'exiger la tenue de bonnes élections. Je ne sais pas comment est-ce que les gens ont compris lorsque les partenaires internationaux, notamment le passage de Nikki Haley ici, lorsqu'elle insistait sur l'ouverture du jeu démocratique. En fait, ça signifie aussi que ces élections sont préparées lorsque le terrain est balisé. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque quelqu'un veut revendiquer, ne serait-ce que pour donner une information, donner son point de vue sur une question donnée, c'est un problème. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois que c'est hier ou avant-hier, que les jeunes de la Lucha ont été dispersés. Et on déplore aujourd'hui des cas de blessures. Heureusement que cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort. Ne serait-ce que pour dire non à cette machine à voter. C'est une opinion. Ça ne veut pas dire que ça doit se faire réellement, mais c'est une opinion d'un groupe. Mais si déjà à ce niveau, on ne peut pas le permettre. Mais comment voulez-vous que l'opposition soit si capable de placer des témoins partout dans ce pays continent? C'est difficile parce qu'on ne leur permet pas ces jeux-là. C'est pour cela que je réponds en même temps à Corneille Nangaa, qui a pris un mauvais exemple en citant Maloma lorsqu'il dit que les élections ne sont pas, qu'on appelle, n'arrangent pas le pays en soi, c'est plutôt un point de départ. Mais non, mais c'est une erreur. Quand on sort des maximes, il faut savoir les placer dans le contexte. Le contexte actuel du Congo veut que nous puissions avoir des élections qui arrangent. comment avoir les élections qui arrangent? Ce sont les élections où il n'y a pas de machine à voter par rapport à la demande de l'opposition et d'une large opinion de Congolais. Pourquoi? Parce que cette machine, elle est méconnue, elle n'offre pas de garanties. Merci. Les bonnes élections, c'est la possibilité de laisser les gens s'exprimer librement dans la rue. Voilà les élections qui arrangent, dès lors qu'elles seront démocratiques. Donc, on ne peut pas parler des bonnes élections, des élections qui n'arrangent pas le pays, si au départ on ne prend pas des mesures pour pouvoir mettre tout le
Merci
monde dans les conditions idéales.
Voilà. Romo Tabba, au sujet toujours, n'est-ce pas, de ces défis que l'opposition doit relever, celui de déployer des témoins dans chaque bureau de vote, les 80 000 bureaux de vote à travers le pays. Et Innocent Kavoukala lui estime que l'opposition n'est pas organisée comme n'est pas désorganisée comme on le disait, n'a pas de problème de gestion comme on le disait John Ngombwa. C'est plutôt le problème qui se pose actuellement, c'est un problème d'ouverture politique. Mais on se rappelle qu'en 2011, on n'était pas dans les mêmes contextes, mais il y a des grands partis politiques qui sont bien implantés à travers le pays, mais qui ont été incapables, n'est-ce pas, d'avoir des témoins dans chaque bureau de vote. Romo Tabba.
Oui, bon, moi je ne crois pas que les gens qui ne sont pas organisés puissent avoir des rencontres au niveau de Kinshasa, au niveau de Bruxelles, à la fin du Sud. Je crois que là, c'est faire un procès d'intention contre le membre de Brochon. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'ils s'organisent de cette façon-là. Et je crois que dès lors qu'ils vont trouver un consensus autour d'un candidat commun, l'histoire, la question des témoins va se résoudre par elle-même, parce que là, s'il y a unité, les candidats, même ceux qui ont été invalidés, vont mettre la main dans la pâte et vont apporter du personnel qui va jouer ce rôle-là de témoin. Moi, je pense que là-dessus, en tout cas, moi, je crois que l'opposition peut bien relever ces défis-là. Mais moi, la problématique aujourd'hui, c'est est-ce que réellement la CENI est indépendante? Est-ce que elle va nous faciliter la tâche d'avoir des élections crédibles et transparentes? Je crois que c'est la question aujourd'hui que tout le monde se pose, et c'est celle-là, c'est cette question-là. Quand aller traiter l'opposition de ne pas être pas organisée, moi je pense que ça c'est de la distraction. La question fondamentale aujourd'hui, et je crois que si l'opposition aujourd'hui est en train d'aller à gauche, à droite, c'est pour chercher que les partenaires de la RDC puissent aussi apporter leur contribution dans ces préparatifs-là. Parce que ça ne sert à rien de venir après pleurnicher que voilà, il y a tant de refoulés, de politiques qui ont fui la RDC après les élections. Je pense qu'il faut préparer et éviter ce chaos-là dès maintenant, avant les élections.
Merci.
Romo
Tabba. Merci Romo Tabba. Notre deuxième thème de ce soir, 9 soldats et 6 civils, dont 2 femmes tuées. C'est le bilan de l'attaque des hommes armés samedi et dimanche contre les FRDC dans les territoires de Djougou en Ituri. Ces carnages a eu lieu dans les villages de Mouvaramo, Songamoya et Tara, à plus ou moins 80 km de Bounia. Les récits de Martial Kiza Biamungu.
12 corps sont exposés à Kasseni, base des soldats tués de la force navale depuis dimanche soir. Ils sont venus de Mouvaramo. Il s'agit de 6 militaires et 6 civils, dont 2 femmes. Selon les chefs de secteur de Baye Masside, dont Kasseni est le chef-lieu, les corps sont décapités. Douglasias Roussoke indique que 3 autres corps des militaires étaient en route pour Kasseni, ce qui porte à 15 le nombre des morts. Des sources sécuritaires rapportent que 30 personnes prises en otage par des assaillants sont relâchées depuis la nuit dernière. Et il manque encore à l'appel. Ces assaillants lourdement armés, selon des témoins, ont aussi apporté plusieurs armes de FARDC. Des sources médicales rapportent que 8 blessés graves sont internés dans un hôpital de la région. Parmi eux, un enfant de 13 ans. Cette situation suscite un émoi dans tous les milieux ici à Ituri. Les femmes de militaires ont même manifesté leur colère ce matin à Kasseni. Les porte-parole de FARDC indiquent cependant que la situation est sous contrôle de l'armée à ce moment. Le lieutenant Gilles Ngongo ne reconnaît que 2 morts dans les rangs, ce que contestent tous les témoins sur terrain. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Kiza Biamungu. À Kilembwe, dans les territoires des Fils au Sud Kivu, les combats ont repris lundi dernier entre la FRDC et le groupe coalisé Mai Mai, dirigé par le général autoproclamé Yakutumba William. Les bilans dressés par des sources concordantes fait état d'une dizaine de morts et des blessés de part et d'autre. John Gomboa, directeur général de Congo Facilité Agence, une agence de production audiovisuelle et des services, 15 personnes, dont 9 militaires et 6 civils, ont trouvé la mort le week-end dernier dans une attaque contre les positions des FRDC dans les territoires de Diougou. Comment vous comprenez cette situation?
Oui, c'est désolant parce que on a l'impression que c'est un cycle éternel, cette histoire des morts dans l'est, dans la zone est du pays. Au-delà de la capacité sécuritaire du pays à faire face, il y a aussi malheureusement un côté business qui est rentré dans ces conflits, ce qui fait que les conflits, il est récurrent, il est permanent, parce que quand vous prenez les cas de l'Ituri, vous ne savez pas très bien qui attaque qui. Comme on dit, c'est une guerre asymétrique. Il y a notre confrère Nickel Kibelbel qui avait en partie expliqué cela par le fait d'une sorte d'islamisation de cette zone. Bon, moi, c'est son opinion. Mais je pense aussi qu'il y a aussi une bonne dose de business dans ces affaires. Et les business qui va au-delà même des positions traditionnelles. Ça devient beaucoup plus des individus ou des groupes d'individus qui ont des intérêts dans l'exploitation des minéraux. Et voilà, à partir de ces moments-là, qui instrumentalisent tous ceux qui peuvent se prêter comme force. Et voilà pourquoi ces conflits semblent s'éterniser. Il faudrait vraiment que nous prenions le temps d'aller en profondeur, décerner les vraies causes. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit les FRDC qui soient contre un groupe quel qu'il soit. Il y a une mosaïque des groupes à travers cette zone. Et vous voyez, derrière chaque groupe, il y a pratiquement des finances, il y a pratiquement une exploitation minière qui est installée.
Isaac Kabuka, la journaliste indépendant et à Kinshasa, nos ressources naturelles seraient à la base, n'est-ce pas, de cette insécurité que nous connaissons depuis plusieurs années dans l'est de la RDC, comme le dit John Gomboa.
Mais au-delà de ces ressources naturelles, il faut dire que l'est a toujours été hypothéqué depuis longtemps. Les tirs de ficelle sont à Kinshasa. La plupart de cas, vous allez remarquer que lorsqu'on parle élection, on parle insécurité. C'est vrai que dans la période qui précède, qui sépare les deux élections, donc dans les cinq ans, il y a des temps morts, il y a des zones de temps morts, mais lorsqu'on approche des élections, ça revient en force. Mais pourquoi? Mais parce que simplement, les terres de Bissau, comme je l'ai dit, ils sont en Kinshasa, c'est une manière d'alimenter leur argument en ce qui concerne le report des élections. Vous avez parlé tout à l'heure là pourquoi on ne place pas des témoins dans des bureaux de vote à des endroits beaucoup plus reculés. Mais comment voulez-vous, à un endroit où il y a l'insécurité, qu'on ait la possibilité de former des gens pour les placer comme témoins dans un bureau de vote quelque part là? Et la plupart des cas, les élections se tiennent toujours dans de très mauvaises conditions à ces endroits là. Oui, pourquoi? Mais parce que ces élections, on sait pourquoi on les fait. Et alors ça a un impact sur la tricherie qu'on a toujours décrié à chaque fois.
Et donc, vous corroborez les propos d'un expert qui a parlé des conflits conjoncturels pour solutionner certaines questions politiques.
Mais c'est cela justement. Et la plupart des cas, vous savez, quand on arrive là, ces mêmes personnes, lorsqu'on va avoir des élections qui ne vont pas satisfaire ici à Kinshasa, directement là-bas, il y aura des gens qui vont se réclamer de ceux qui ont été déçus, et directement, ils vont exiger de nouvelles élections, ils vont vont avoir beaucoup d'exigences là-bas et ils vont s'agglutiner autour des mines effectivement pour pouvoir se ressourcer en termes d'argent. Mais la réalité c'est que après bon, quand on va essayer de pacifier, on va prendre certains pour les nommer qui général et qui je ne sais qui ici et pour la plupart des cas. Donc c'est du chantage qu'on le fait et généralement vous allez remarquer que ça prend plus de l'ampleur lorsqu'on parle des élections. Et donc, notre expert a bien raison lorsqu'il parle d'insécurité conjoncturelle.
Rombo Taba, journaliste au journal L'Observateur paraissant à Kinshasa. Pendant ces temps, Yaku Toumba a fait parler de lui une fois de plus au sud Kivu, en occupant les territoires de Kilembwe dans cette province, et promet même d'arriver à Kinshasa. Et ça vous inspire quoi, ces attaques qui se produisent au même moment, mais à des endroits différents de la République?
Bon, de toutes les façons, il faut l'étudier pour dire que lorsqu'on est dans un non-état, il y a des petits infanteries qui naissent partout là pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Donc ça, ce sont les conséquences de la situation que la RDC vit aujourd'hui, un état mobilisé, un état qui est devenu un non-état, donc un non-latmen, comme on dit. Alors, je pense que le problème... voir clairement qu'il n'y a pas une volonté politique de mettre fin à tous ces troubles-là dans l'est du pays. Parce que plusieurs recommandations ont été faites, notamment les changements de commandement militaire dans toute cette partie-là, où il y a de l'insécurité. Mais Kinshasa est resté indifférent. Il y a eu des officiers supérieurs qui ont été assassinés dans cette partie de où il y a l'insécurité. Les enquêtes n'ont abouti à rien. Donc, tout cela semble indiquer que Kinshasa favorise cela, tous ces troubles, pour des dividendes politiques. Bon, moi, je ne peux pas aller dire jusqu'à ce qu'il n'y ait pas d'élection pour dire qu'on prolonge le pouvoir actuel. Je ne sais pas. Mais est-il que Kinshasa a une grande part de responsabilité dans ce qui arrive là-bas? Parce qu'on sent clairement qu'il n'y a pas de mesures drastiques qui sont prises pour maîtriser tous ces petits délinquants qui sèment la sécurité dans les pays. Et puis, il faut voir que depuis l'entrée de l'AFDEL, cette situation s'est davantage empirée. Bon, moi, je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, on s'arrête, qu'on sache effectivement qu'est-ce qui se passe dans cette partie du territoire-là. Est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, éventrer les boyards autour du fameux accord de l'Emirat. Qu'est-ce qui s'est dit réellement entre ces partenaires-là qui avaient signé ces accords-là? Pourquoi est-ce que les autres pays qui ont apporté du personnel militaire ou disons entre guillemets des mercenaires à l'AFDEL ne créent pas pour vous des problèmes. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'Ouganda avec les ADF et le Rwanda qui posent ce problème. Vous rappelez-vous de la guerre de Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda en pleine.
Oui, John Gomwa, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour pacifier de façon durable l'est du pays? Ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, je crois qu'il y a l'accord cadre d'Addis Abeba qui avait fait une bonne planification. Cet accord, malheureusement, a souffert de sa non-application, en partie chez nous ici, mais beaucoup plus par rapport aux partenaires, aux voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Il est grand temps que on applique cet accord, et l'accord permettait même d'aller plus en détail en ce qui concerne la gestion de groupes armés, ainsi de suite. Donc cet accord est toujours en souffrance. Qu'on l'applique et ça sera bon pour tout le monde.
Et dans ce cas-là, comment faire pour pacifier de façon durable l'est du pays? Il faut l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba comme le propose John Gomwa.
Il est vrai qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais dans le cas où on trouve une équipe qui ne gagne pas, il faudra la changer. Et donc l'alternance dans notre pays pourra nous proposer autre chose pour justement arriver à l'application de cet accord d'Addis Abeba.
Comme le disait quelqu'un, il faut des bonnes élections et ça va nous permettre, n'est-ce pas, de mettre fin à cette situation de sécurité dans l'Est.
Oui, tout à fait, parce que des bonnes élections, évidemment, feront que nous puissions avoir cette alternance réelle et que l'équipe actuelle partira alors dans son entièreté. Et donc, à ce moment-là, on pourra revenir sur cet accord. Parce qu'il est vrai que cet accord est très capital pour cette partie de la RDC, d'autant plus que c'est un accord qui met ensemble tous les pays de Grand Lac. Hein, à Addis Abeba, toutes ces questions ont été vidées. On va avoir des bons militaires qui savent que, en tant que militaire, c'est pour pouvoir sécuriser la frontière, et on aura des bons policiers parce que les policiers seront les amis de la population pour la sécuriser. On ne doit pas avoir des policiers qui sont contre la population et des militaires qui sont des ennemis. Donc, on a besoin de la coordination, de l'unité de commandement pour pouvoir réussir cet aspect des choses.
Rambo Taba, en conclusion, que faut-il pour pacifier l'Est du pays, en un mot?
Oui,
que faut-il pour pacifier l'Est du pays? C'est votre conclusion.
Bon, moi je pense que il faut qu'il y ait Kinshasa soit déterminé politiquement à mettre fin. Et l'une des recommandations importantes qui a été faite, c'est de changer le commandement militaire à l'est du pays et procéder à une affectation d'autres militaires dans cette partie-là. Je pense qu'il y a trop de complaisance dans ce qui se passe là-bas.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindouket à la technique et à Alain Rung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision des Pelé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.